7h47 minutes, on le sait, là, cette semaine, les mésaventures de notre collègue Catherine Beauchamp pour la réservation d'un appartement à Cannes a fait jaser pas mal parce qu'on s'est fait prendre sur un site Internet. On a délaissé délaissé Airbnb pour aller ailleurs et les autres plateformes du genre qui sont de plus en plus populaires également. Mais il faut faire attention quand même lorsqu'on s'en sert. Faut le faire avec bonne connaissance de cause, et c'est la raison pour laquelle on a invité Steve Waterhouse, spécialiste en sécurité informatique. Bonjour Steve.
Bon matin François.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour se contrer contre les fraudeurs, parce qu'il y en a quand même pas mal malgré tout là.
Et comme tu dis François, je veux dire, c'est pas juste avec la plateforme Airbnb que le phénomène y est là, puis les gens, je crois, qui en sont conscients, qu'il arrive des fraudes à l'occasion par n'importe quel achat, de transactions qui sont faites en ligne. Mais il ne faut pas surexposer aussi le problème parce que ce n'est pas une façon prédominante, une résultante prédominante qui arrive de toutes les transactions qui arrivent en ligne. Puis si je prends certaines statistiques de 2016, sur 80 millions d'échanges à travers Airbnb, je veux dire, 3 à 7 des transactions se sont avérées négatives, autrement dit, qu'il y a eu des fraudes, qu'il y a eu à ce moment-là, des mésaventures avec le système de réservation, juste pour parler d'Airbnb. Fait que ça fait en sorte que c'est pas un problème qui est croissant. Ben, il est croissant parce qu'il y a plus de monde qui l'utilise, mais à ce moment-là, c'est pas parce que la plateforme est pas bonne puis la solution est pas bonne non plus, là.
Mais 3 à 7 % en termes de pourcentage, je trouve ça élevé quand même, non?
Ben, encore là, c'est toute proportion gardée. C'est quand même sur 87 millions, c'est certain qu'on on va dire que ça approche quand même le 5 à 10 millions.
Oui, c'est beaucoup.
Ben oui, c'est beaucoup, c'est certain, mais il reste toujours bien que c'est toute proportion gardée. Ça se peut qu'à ce moment-là, les gens vont déclarer, les propriétaires de la plateforme vont dire « Ah, c'est quand même grosso modo pas suspect ». Mais il reste toujours bien que quand ça nous arrive à nous, c'est là que ça arrête. Là, veux dire, le 3 à 7 % il est trop gros parce qu'on en fait partie de cette statistique-là. Et pour ça, ben c'est des facteurs technologiques autant qu'humains qui vont contribuer des fois à ce que ce phénomène-là arrive.
Bon, comment on fait pour contrer justement ce phénomène-là? Nous, là, qui voulons utiliser Airbnb, Uber ou toutes les autres plateformes qui existent dans ce monde de façon efficace, mais surtout sécuritaire, on fait quoi exactement?
À la base, François, c'est de s'assurer on va chez bel et bien le fournisseur. Donc, on reste quand même dans cet exemple-ci avec Airbnb. De regarder la plateforme, de se familiariser avec la plateforme, parce qu'il y en a qui vont aller pour la première fois et ce sont des gens qui vont être souvent plus susceptibles à se faire prendre dans un faux site Airbnb. Mais il reste toujours bien que le site lui-même, il faut regarder l'adresse dans la barre d'adresse en haut. Et souvent, les furteurs ne montreront pas l'adresse Internet dans le haut qui commence par https://.. puis Airbnb. Quelque chose. Et c'est là que ce point quelque chose-là est très important à regarder parce que les sites frauduleux vont utiliser un différent nom qui va ressembler beaucoup au site original et c'est là que les gens vont tomber dans le piège de se croire sur le bon site et de penser qu'ils sont en sécurité parce qu'évidemment, il y a HTTPS au bout pour dire que le site est sécurisé dans la transaction et après coup, tout le reste, des fois, peut être masqué, peut être vraiment pas à la vue. Donc, c'est de prendre conscience de l'adresse où on s'en va travailler et après ça, rester sur la plateforme est le secret parce que les fraudeurs vont tenter de prendre la conversation et surtout la transaction et l'amener à l'extérieur de la plateforme et comme Catherine a subi, c'est comme ça que c'est difficile à se retracer et les forces de l'ordre n'ont aucun moyen pour après ça vous aider à récupérer vos dûs.
Et bien entendu, Airbnb qui va se dire « Bon, je me frotte les mains, t'es sorti de chez nous, je peux pas te protéger. »
Et voilà, puis si mon souvenir est bon, dans les petits caractères de contrat, je veux dire, c'est comme ça qu'ils vont dire, tout ce qui est hors de notre contrôle, c'est-à-dire en dehors de la plateforme, désolé, on ne peut pas vous aider. Alors que si tout se passe sur la plateforme et il y a détection d'une fraude potentielle, alors là, à ce moment-là, avec le service à la clientèle d'Airbnb, il y a quelque chose à faire. Et surtout, le gros secret là-dedans, François, c'est de documenter vos transactions. Prenez des captures d'écran. Autrement dit, montez-vous un dossier et plus vous avez de preuves, plus vous êtes capable de prouver votre démarche. Et à ce moment-là, ça commence à pointer vers la plateforme elle-même. Bien, ça va être plus facile d'avoir un dédommagement.
Bon, l'autre sujet pour lequel je voulais t'avoir ce matin, absolument, c'est la reconnaissance faciale. On sait que c'est utilisé depuis déjà quelques années. Depuis septembre 2001, on a développé de nouvelles façons de protéger les aéroports, mais là, on commence à s'en servir peut-être Oui, au service des entreprises, mais d'une autre façon qui, je trouve, était un petit peu envahissante. Alors, les consommateurs qui commencent à être épiés à leur insu dans certains commerces, je commence à moins aimer ça un peu, là.
Oui, mais les gens, à ce moment-là, François, ils disent quoi? Je veux dire, les gens, est-ce qu'ils demandent de se faire filmer constamment?
Oui, mais on ne le sait pas. C'est ça le problème.
Voilà. Exactement. Et ce que je dénonce un peu de ce phénomène-là, c'est qu'il y a absence de balises légales avec lesquelles que les gens peuvent se rappuyer et dire c'est un droit ou pas de faire ça. Autrement dit, les commerçants ont-tu pleine et entière liberté de pouvoir filmer tout ce qu'ils veulent et enregistrer tout ce qu'ils veulent aussi dans le commerce, alors qu'il y a quand même des directives, des lignes directrices du commissaire à la vie privée du Canada et du commissaire d'accès à l'information du Québec, prouvant que les commerçants doivent aviser que les gens vont être enregistrés pour que la personne ait toujours le choix de dire non. Et si, en l'absence de choix négatif, ben il y a comme un consentement tacite que les gens, à ce moment-là, font acquiescent autrement.
Mais comment baliser ça véritablement, parce que si tu installes une caméra dans ta vitrine pour voir l'humeur de ton consommateur, pour dire, ben regarde, ça plaît moins, ça plaît plus, ou encore pour une certaine reconnaissance faciale qui nous permettra de cibler cette personne-là pour en termes de publicité, si tu le sais pas, ou tu même si tu y dis, tu vas faire quoi? Là? Les images utilisées ne pourront pas être utilisées, ou encore, je sais pas comment ça pourrait fonctionner, là. Ça commence à être difficile à bébite, là.
Ben, tu dis bien, parce qu'il faut à ce moment-là qu'il y ait un plein éclairage sur qu'est-ce que la captation d'informations va faire et comment est-ce qu'elle est, s'il y a une rétention, comment est-ce qu'elle est conservée. Et c'est là que tout le débat réside, parce que il n'y a pas, comme je disais tantôt, de réglementation claire là-dessus. Puis avec les cas récents qu'on a vus durant les 10 derniers mois, partant de celui qui a été exposé au grand vent du centre d'achat à Calgary, oui. Le rapport, il n'est même pas encore sorti. Les rapports d'enquête, c'est-à-dire du commissaire à l'accès de la vie privée du Canada et d'Alberta, ils n'ont pas sorti encore, ça c'est surprenant. Et après coup, là, ça prolifère. Fait que si on se met d'un côté entrepreneur, commerçant, c'est certain qu'on va courir après cette technologie-là. C'est une manne d'informations qui ne coûte pas cher en investissement pour aller recueillir toutes ces données-là de marketing. Et du côté client, ben, c'est certain qu'une manière, si les gens ne se préoccupent pas de protéger leur vie privée aujourd'hui, mais c'est plus tard après ça que ça va être la difficulté de regagner cette vie privée-là alors que tout est exposé. C'est un peu ça que j'essaie de d'énumérer ici.
J'ai fait un test hier, Steve. J'ai laissé mon GPS ouvert sur mon cellulaire et je suis allé dans une grande surface hier. Ça n'a pas pris 10 minutes que j'étais sorti du magasin, que je me faisais offrir des choses de leur part pour dire, bon, vous avez visité ça, est-ce que vous avez aimé ça? Voici ce que je peux vous offrir davantage. Et c'est envahissant, pas à peu près, là.
Oui,
moi, je l'enlève de façon systématique. Tu me connais, là. Moi, je déteste ces affaires-là. Mais si tu le laisses là, c'est sûr que tu vas te faire envahir.
Et il y a la technologie du sans-fil, François, aussi, que si tu n'as pas éteint ta carte sans-fil sur ton appareil, autrement dit la carte Wi-Fi ou la carte Bluetooth, surtout la carte Wi-Fi, fait en sorte que ça devient un autre gage d'identité de ton appareil. Fait qu'autrement dit, les commerçants savent, lorsque tu entres dans l'environnement de commerce, que l'appareil X vient souvent, etc., puis ils peuvent à ce moment-là cibler de l'intérieur de l'information avec juste la carte sans fil. Mais encore là, c'est plutôt servi à titre statistique, mais comme tu dis, couplé avec le GPS et ton identifiant cellulaire, bien là, c'est comme ça que, non pas de façon avec les communications cellulaires qui vont le faire, mais bien, lorsque aussi tu as des habitudes d'hébergement. Donc, si personne ne vide sa cache de recherche sur son browser, sur son furteur Internet, c'est un autre moyen que les cookies, les fichiers témoins, vont à ce moment-là documenter que tu as été à la place A, B ou C et ils vont pouvoir t'injecter de la publicité.
Il y a tellement de bebelles qu'il faut surveiller maintenant qu'on oublie tout le temps et on se fait veiller pareil. C'est Waterhouse. Merci beaucoup encore une fois.
Au plaisir. Bonne fête. Merci. Bonne fête des mères.
Ben, toi aussi pour ta mère. Steve Waterhouse, spécialiste en sécurité informatique. Le temps d'une pause. Au retour, Maxime Pedneau-Jobin, maire de Gatineau, entre autres. Il y a beaucoup d'inquiétudes là-bas. Et Valérie Beaudoin qui va nous parler de Donald Trump. À tout de suite.